France Culture.
La science CQFD, Antoine Beauchamp.
Si vous aimez lire un roman, regarder des films, des séries ou jouer à des jeux vidéo, c'est qu'il existe en vous un goût ancré pour la fiction et ça vous semble naturel. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les humains aimaient tant la fiction ? Notre espèce Homo sapiens a émergé il y a environ 300 000 ans. Or, la plus ancienne trace d'écriture remonte à environ 6 000 ans avant notre ère. Cela signifie-t-il que pendant près de 99% du temps, depuis son émergence, notre espèce a vécu sans fiction et sans monde imaginaire? La réponse, on s'en doute, est non. Mais alors, d'où vient ce goût universel de notre espèce pour les histoires qu'elle se raconte depuis la nuit des temps? Et comment décortiquer scientifiquement ce goût façonné par l'évolution humaine pour les fictions? C'est la mission que se donnent des chercheurs qui font appel à Darwin et sa théorie de l'évolution pour comprendre l'origine de notre amour pour les fables. Les humains et la fiction, il était une fois. Et pour parler de cette enquête sur l'origine de notre attachement aux fictions, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec Edgar Dubourg. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences cognitives à l'École normale supérieure et chercheur postdoctoral à l'Institut Curie. Vous êtes l'auteur du livre « Histoire naturelle de la fiction » paru aux éditions Humaine Science. Et nous sommes également en ligne avec Valentin Touzeau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur de sciences des données appliquées à l'étude de la culture à l'Université Paris Sciences et Lettres. Bienvenue à tous les deux et bienvenue à vous qui nous écoutez. Joyeux Noël tout le monde. Vous pouvez, comme chaque jour, retrouver tous les liens vers les articles qui nous ont permis de préparer cette émission sur le site de la Science CQFD, mais aussi sur notre compte Blue Sky, @sciencesCQFD. Quoi de mieux donc que la période des fêtes pour se demander pourquoi on se nourrit autant de fiction? Et si la raison de cette fascination pour les histoires était à chercher dans la biologie et dans le temps long de l'évolution de notre espèce? C'est la question que nous allons nous poser tout au long de cette heure, mais j'aimerais vous poser une question à tous les deux, Edgar Dubourg, Valentin Touzeau, pour commencer. Puisque la question « pourquoi » est centrale dans votre enquête, je vous la pose à vous. Pourquoi avoir fait ce choix de ce sujet-là? Pourquoi avoir décidé de partir à la recherche des origines de notre goût en tant qu'espèce humaine pour les fictions? Edgar Dubourg, à vous l'honneur.
Ah, c'est une bonne première question. Je pense qu'elle a, elle trouve une réponse dans le fait que c'est un comportement assez spécifique à l'espèce humaine, sûrement parce que les compétences pour la communication sont moins développées chez certains animaux et il faut un langage développé pour pouvoir se partager des histoires de fiction. Donc on a une première réponse, mais c'est un comportement tellement spécifique à l'espèce humaine qu'elle en devient intéressante par rapport à, par exemple, le sommeil, qui est fascinant en soi, hein, ou l'amour, ou des choses comme ça qui peuvent revenir dans d'autres espèces. Là, on a un comportement qui est assez spécifique. La deuxième raison, je pense, pour moi, c'est parce que je suis fasciné par les histoires de fiction. Et peut-être une troisième raison, c'est que ça reflète bien la façon dont fonctionne notre esprit. Donc, quand on étudie les fictions, on étudie plein de choses, je pense.
Valentin Touzeau, je vous pose exactement la même question. Pourquoi avoir fait le choix de ce sujet-là en particulier, de l'origine de notre goût en tant qu'humain pour la fiction?
Alors moi, en tant que chercheur, c'est plutôt un hasard que je suis arrivé sur ce domaine. C'est parce que donc Edgar Dubourg, qui est avec nous aujourd'hui, est un collaborateur. Et de mon côté, ce qui m'intéresse, c'est l'analyse de données, l'analyse de grandes bases de données, les sciences des données. Et ce qui est assez fascinant avec l'étude des fictions, c'est que les humains en produisent et en consomment énormément. Et donc, quand on veut analyser des données, c'est très intéressant de s'occuper des livres, des romans, des films, des jeux vidéo. Ça fait un terrain de jeu pour quelqu'un comme moi qui est fasciné par ça, qui est immense. Et dans ma rencontre avec Edgar Dubourg et des collègues à nous, j'ai eu l'occasion de travailler avec eux et d'appliquer ces compétences de statistiques, d'analyse des données à ces objets qui me fascinent par ailleurs, évidemment. Je consomme beaucoup de fiction, j'adore ça. Donc c'était pour ça que moi je m'y suis intéressé.
Alors on va poser aussi le cadre bien sûr méthodologique dans lequel vous vous inscrivez, puis on va définir aussi les termes. Edgar Dubourg, une question qui n'est pas si simple que ça, c'est quoi une fiction? Comment on peut la définir et comment elle se distingue de la réalité?
J'aime bien commencer par opposer la fiction à deux types de discours, puisque la fiction est une histoire en partie fausse. Et il y a deux autres types de discours qui sont en partie faux ou complètement faux parfois, hein. Ce sont les mensonges et les erreurs. Et les erreurs, ce sont des messages faux pour lesquels on n'a pas l'intention de dire quelque chose de faux puisque on ne sait même pas que c'est faux, c'est une erreur quand on dit quelque chose qui est faux et qu'on ne le sait même pas. Un mensonge, c'est quelque chose qui est faux et qu'on partage avec l'intention de mentir, c'est-à-dire de tromper la personne qui nous écoute. La fiction, c'est un discours faux très, très encore particulier qui repose sur le fait qu'on le partage avec l'intention de révéler notre intention qu'on veut partager une histoire fausse. Donc c'est une capacité de détection d'intention qui nous permet de faire ça, c'est-à-dire qu'on partage une histoire fausse en disant à notre audience, à notre auditoire ou à notre lectorat, sachez bien que c'est faux, nous le savons tous et nous allons pouvoir raconter une histoire fausse en connaissance, en sachant très bien que c'est faux.
Valentin Touzeau, est-ce qu'on peut dire à 100% de façon assurée que le goût de Homo sapiens, de notre espèce pour la fiction, est universel et intemporel? Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de dire ça?
Alors, donc l'entreprise dans laquelle nous sommes, c'est l'entreprise scientifique. Et donc là, ce que vous évoquez, c'est une hypothèse. Est-ce que on peut dire que le goût pour la fiction est universel? Pour ça, il faudrait faire une prédiction testable empiriquement. Il faudrait pouvoir prendre des risques. C'est-à-dire dès qu'on se demande qu'est-ce qui pourrait venir falsifier la prédiction selon laquelle le goût pour la fiction est effectivement universel. Et c'est pas facile à dire. Ça dépend ce qu'on entend par universel déjà. Est-ce que ça veut dire que tout humain devrait être et sera attiré par les fictions? Ben ça, c'est assez compliqué à dire. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que la plupart, si ce n'est l'ensemble des populations humaines qu'on a étudiées, sont des populations qui produisent et consomment des fictions. Ça, c'est sûr. Donc à partir de là, il semblerait bien qu'il y ait quelque chose qui est vraiment commun à l'ensemble des populations, mais ça ne veut pas dire que tous les humains de toutes les populations sont tous attirés par les fictions. On trouve des individus qui ne s'intéressent pas du tout aux fictions, à leur consommation, à leur production. Donc, c'est universel dans un certain sens. En tout cas, c'est ce qu'on peut dire à ce stade.
Puisque Valentin Touzeau, vous parlez d'hypothèses, pour vérifier des hypothèses, quand on a une démarche scientifique, on suit des méthodes et des méthodes scientifiques. Edgar Dubourg, vous vous intéressez à la psychologie évolutionnaire, du moins c'est le prisme par lequel vous abordez cette question-là. J'aimerais que vous nous parliez de cette approche-là, de cette discipline, de ces postulats, et comment elle vous sert, vous, à vous accaparer, à vous emparer de ce sujet-là, de notre goût pour la fiction.
Alors c'est une discipline qui s'intéresse à l'esprit humain et à la façon dont l'évolution a pu avoir un impact sur la façon dont fonctionne l'esprit humain encore aujourd'hui. Donc on va s'intéresser, en fait c'est une discipline assez interdisciplinaire par essence puisqu'on s'intéresse à l'éthologie, donc on compare les comportements humains, l'esprit humain avec celui d'autres animaux. On va s'intéresser à l'anthropologie, c'est-à-dire à l'étude de sociétés humaines plus ou moins différentes des sociétés modernes dans lesquelles et industrialisées dans lesquelles nous vivons. On peut même s'intéresser à énormément de sciences sociales hein, quand on fait des sciences évolutionnaires, à l'économie, à la sociologie, qui peuvent nous renseigner sur les comportements humains universels et variables dans les sociétés humaines. Moi, je pense que un des éclairages que m'apporte la psychologie évolutionnaire ou la psychologie évolutive, c'est l'idée que les mécanismes émotionnels et motivationnels qui sont à l'origine de notre goût pour les histoires sont en fait des mécanismes qui sont là depuis très longtemps, qui ont évolué il y a très longtemps pour des raisons diverses et variées qu'il faut comprendre, et l'évolution nous permet de les comprendre. Donc, par exemple, la peur. Quand on veut mieux comprendre le cinéma d'horreur, la littérature d'horreur et les jeux vidéo effrayants, certains sont très effrayants, il faut comprendre pourquoi ce mécanisme de la peur existe. Et en comprenant mieux sa fonction évolutive, c'est-à-dire pourquoi la peur a évolué dans les esprits humains et non humains, parce que la peur est commun avec énormément d'espèces, on peut mieux comprendre la façon dont ce mécanisme fonctionne, sous quelles conditions il s'active, pourquoi l'intensité de la peur varie entre les individus. On va pouvoir se poser plein de questions que la psychologie évolutive vient enrichir. Et on peut se poser des questions comme celle-ci. Pourquoi les humains consomment-ils des histoires d'horreur?
Et il faut le dire aussi, Edgar Dubourg, il faut le dire que cette approche de la psychologie évolutive, elle ne tombe pas sous le sens pour tout le monde. Il y a pas mal de critiques à l'encontre de cette approche-là, puisqu'il y a une tentative, si je le résume à très gros traits, d'unifier biologie et culture, ce qui ne va pas forcément de soi pour tout le monde.
Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des critiques, j'en entends personnellement, moi, de moins en moins, mais sûrement que je suis pas représentatif puisque je travaille dans ce champ. J'ai l'impression que de dire qu'il y a des bases évolutives et donc biologiques aux émotions humaines fait assez consensus, en tout cas dans les disciplines scientifiques dans lesquelles je travaille, pour pouvoir les poser comme prémisse et comme hypothèse de travail, c'est-à-dire il y a des circuits neuronaux et des bases biologiques et donc évolutives à la peur, à la surprise, à la curiosité, à la tristesse. On sait comment ça fonctionne biologiquement, donc dire qu'il y a des bases évolutives pour ces émotions qui sont d'ailleurs partagées par beaucoup d'animaux me paraît pas très clivant en tout cas pour le dire vite.
Et on va voir bien sûr comment cette psychologie évolutive nous éclaire sur ce goût des humains pour la fiction. Valentin Touzeau, vous évoquiez tout à l'heure votre approche à vous, qui est plus une approche basée sur les données. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots comment votre regard est complémentaire à celui d'Edgar Dubourg dans cette enquête sur les origines de notre goût pour la fiction?
Alors, donc ce qu'il faut savoir, c'est que Edgar et moi travaillons ensemble sur certains projets. Et c'est une approche complémentaire dans le sens où c'est même indistinguable. C'est la même approche quelque part. C'est juste que Edgar est plus spécialiste de la théorie qui sous-tend les prédictions qui vont être formulées. Moi, je suis un petit peu plus spécialiste des méthodes scientifiques d'analyse de données qui vont permettre de tester ces prédictions. Donc, on vient de parler, par exemple, de psychologie évolutionniste et des prédictions qui sont proposées par la psychologie évolutionniste au sujet des raisons pour lesquelles les fictions d'horreur peuvent nous toucher, peuvent nous impacter. Et une fois que ces prédictions sont posées, le travail du scientifique des données, c'est de trouver des manières empiriques, ça veut dire basées sur l'expérience, sur les collectes de données, pour pouvoir tester ces prédictions. Donc il y a plein de méthodes différentes. En sciences cognitives, on n'a pas une seule méthode. Ce qui est important, c'est de respecter la rigueur scientifique, tout simplement. Et il y a une collection de manières de faire. Donc, comme je disais tout à l'heure en introduction, ce qui est idéal avec les fictions, c'est qu'il y a une quantité de données qui est vraiment énorme. Il y a beaucoup, beaucoup de films, de livres, de romans, de jeux vidéo accessibles, et les gens parlent aussi beaucoup de ces objets culturels. Et à partir de là, nous, notre travail, c'est de les collecter. Donc, il y a des logiciels informatiques qu'on peut construire pour collecter automatiquement les données qui sont accessibles en ligne. Donc ça a été une première révolution dans notre domaine, le fait que Internet puisse nous donner facilement accès à énormément de données qu'on peut collecter ensuite automatiquement en effectuant des scripts informatiques. Et une fois qu'on a ces données, il faut les analyser, et on les analyse pas n'importe comment. On s'appuie d'abord sur la théorie, donc c'est là où les approches sont très complémentaires. Une approche théorique, par exemple basée sur la psychologie évolutionniste, doit proposer des prédictions. Si la théorie est vraie, alors voilà ce qu'on devrait observer. Et nous, scientifiques des données, statisticiens, on va mettre en place ce qu'on appelle des tests statistiques, c'est-à-dire des calculs qui permettent de vérifier si les prédictions de la théorie sont vraies. Et pour ça, il y a toute une batterie de méthodes qui permettent de traiter ces bases de données. Donc ça, c'est le cadre général. Et après, ça se déploie en plein de particularités en fonction du type d'objet qu'on étudie. Si c'est du texte, on va par exemple compter des mots. Si c'est des images, on va par exemple mesurer des niveaux de couleurs. Si c'est des posters, par exemple. Si c'est des commentaires en ligne, on peut regarder à quel point les gens ont liké une certaine fiction, etc., etc. Il y a aussi les questionnaires qui sont très utilisés encore, qui permettent directement de demander aux gens, quelles sont les fictions que vous préférez? Et aussi d'autres questions comme à quel âge vous avez, quelle est votre personnalité. Tout ça, on a des prédictions à ce sujet, en fait, si la théorie est vraie. Et donc, nous, on vient prendre des risques en vérité. Comme ça qu'on avance scientifiquement. On fait des prédictions qui sont risquées, au sens où elles pourraient être fausses. Si elles ne s'avèrent pas fausses, on conserve la théorie, je sais qu'on est falsification. Donc voilà, c'est ça la démarche scientifique générale qui s'applique à l'étude des fictions comme à n'importe quel phénomène du réel, quoi.
Et on va voir comment cette prise de risque intellectuelle vous conduit dans cette enquête passionnante aux origines de notre goût pour la fiction.
France Culture, la science CQFD, Antoine Beauchamp.
On poursuit cette émission avec vous, Edgar Dubourg et Valentin Touzeau. Edgar Dubourg, dans votre livre Histoire naturelle de la fiction, vous comparez l'humain à un smartphone. Alors avant de vexer nos auditrices et nos auditeurs, j'aimerais que vous nous expliquiez sur quoi repose cette comparaison et en quoi elle nous éclaire dans notre enquête.
C'est une comparaison que je fais pour expliquer cette idée que nous avons dans l'esprit humain des briques de base cognitive, c'est-à-dire l'équivalent des applications préinstallées dans les smartphones. Les smartphones n'arrivent pas vides. On a forcément des applications préinstallées qui nous permettent de faire tout un tas de choses dès le départ. L'esprit humain, c'est un vieux débat qui existe depuis très longtemps, qui remet en question l'idée de table rase, c'est-à-dire l'idée que l'esprit humain vient complètement vierge, comme un livre avec des pages vierges et sur lesquelles on écrirait avec nos expériences et la culture, nos comportements. En fait, l'idée de la psychologie évolutive et de tout un tas d'autres courants de la psychologie, hein, c'est que le cerveau humain n'est pas vierge à la naissance et arrive avec tout un tas de réseaux préinstallés, de mécanismes que je compare à des applications pour que la métaphore fonctionne et pour qu'on puisse mieux comprendre.
Alors, quelles sont, Edgar Dubourg, les applications nécessaires, les éléments cognitifs nécessaires à la production d'une fiction, quelle qu'elle soit, si on se pose cette question de l'origine de la production de la fiction, quels sont les éléments prérequis ?
On a commencé à y répondre au tout début en définissant un petit peu la fiction. Pour pouvoir avoir une fiction, il faut d'abord des mécanismes qui nous permettent de distinguer le vrai du faux. Donc, on a un ensemble de mécanismes cognitifs qui ont pris le nom de vigilance épistémique, c'est-à-dire des mécanismes qui nous permettent d'être vigilants envers l'information communiquée, notamment par le langage et toute forme de communication. Ces mécanismes nous permettent de filtrer l'information et de ne pas la prendre pour vrai par défaut. Et ce que montrent, par exemple, les psychologues développementaux, c'est que les enfants, à partir d'un très jeune âge, sont sceptiques par défaut, c'est-à-dire ils vont plutôt rejeter l'information si elle n'a pas de bonne base sur lesquelles vérifier sa fiabilité, plutôt que de l'accepter. Et donc ces mécanismes-là, c'est par exemple la détection de la compétence et de la bienveillance d'autrui, c'est-à-dire on va plutôt croire des informations qui nous sont communiquées par des personnes qui nous entourent, qui sont plutôt compétentes dans le domaine dans lequel on discute, ou qui sont plutôt bienveillants, c'est-à-dire qui ne vont pas avoir nos intérêts à cœur et qui vont pas avoir envie de nous mentir, par exemple. Et on a un autre mécanisme très important qui est ce qu'on appelle en psychologie la vérification de la plausibilité, c'est-à-dire l'idée que chaque nouvelle information va être comparée avec les informations d'arrière-plan qui sont déjà accumulées. Et si cette nouvelle information vient à l'encontre de tout ce qu'on a déjà accumulé, qui est déjà dans notre mémoire sémantique, alors cette information sera jugée comme moins plausible, moins vrai, et donc du coup on a des mécanismes qui nous permettent de faire le tri entre le vrai et le faux. Et il faut un deuxième mécanisme, comme je l'ai dit en introduction, quand vous m'avez posé la question de la définition de la fiction, il faut aussi détecter l'intention de l'interlocuteur pour bien s'assurer que la personne n'est pas en train de nous mentir, pour s'assurer que ce qu'elle nous dit de faux, elle le dit avec une intention de nous divertir, de nous intéresser, mais pas de nous mentir. Et donc la détection d'intention, elle repose sur une sorte de sens pragmatique, c'est-à-dire on détecte des indices chez l'interlocuteur qui nous font dire que cette personne n'est pas là pour nous raconter des histoires fausses pour nous manipuler, mais nous raconte des histoires fausses dans un contexte de divertissement ou en tout cas de plaisir. Voilà deux mécanismes qui nous permettent d'avancer sur cette question.
Valentin Touzeau, là on parle des mécanismes qui permettent de produire de la fiction et de la recevoir. Pourquoi on consomme autant de fiction ? C'est une question qui n'a pas une réponse simple et univoque, mais est-ce qu'il y a des éléments qui nous permettent de dire voilà pourquoi, en tant qu'humain, on est autant enclin à aimer les fictions ?
Alors, je pense que cette question est complexe, au sens où je ne crois pas, à ma connaissance, qu'on ait une réponse. D'ailleurs, le livre d'Edgar est une tentative, en fait, de répondre de manière générale à cette grande question. Pourquoi est-ce qu'en fait, d'ailleurs, j'invite les auditeurs à se poser quelques secondes. C'est quand même très bizarre. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi dans l'étude de la consommation des fictions. C'est le temps passé à consommer des informations au sujet de choses qui n'existent pas. C'est quand même assez étrange. Pourquoi les humains feraient ça? Alors, à cela, il y a plein d'hypothèses qui ont été formulées dans la littérature scientifique. Et les psychologues se sont intéressés à ça et ont formulé. Alors, je pourrais laisser Edgar détailler hein, les diverses tentatives qui ont été proposées. Quelque chose quand même qu'il faut remarquer, c'est que les humains ne consomment pas la fiction toute la journée ou aux dépens d'autres activités comme aller travailler,
se nourrir,
se reposer. Voilà. Donc en fait, quand on regarde dans quel contexte les humains consomment de la fiction, c'est souvent des contextes où les opportunités alternatives, faire autre chose, sont pas particulièrement claires. Est-ce que c'est plus intéressant de consommer la fiction que faire autre chose? Bah, c'est pas sûr. Donc déjà, ce qu'on appelle le coût d'opportunité, tout ce qu'on ne peut pas faire du fait qu'on consomme de la fiction, il est assez faible en vérité. C'est par exemple le soir, quand la lumière est couchée, on peut plus vraiment travailler. Bon bah à ce moment-là, on va avoir tendance à consommer des fictions, lire des livres, se raconter des histoires au coin du feu, etc. Donc pourquoi est-ce que les humains aiment autant ça? Ouais, déjà, la première question, c'est mais pourquoi est-ce qu'ils aiment ça tout court? C'est quand même très bizarre. Et aussi, soyons rassurés, ils ne font pas ça aux dépens d'autres activités de la vie courante. C'est surtout quand on n'a pas d'autres opportunités plus importantes que ça. Voilà ce que je peux dire en tout cas. Peut-être que Edgar peut compléter.
Edgar Dubourg, je vous passe le relais. Edgar Dubourg, du coup, sur cette question du pourquoi consomme-t-on autant de fiction, quelles sont les raisons finalement qui attisent notre curiosité et qui nous font aller vers ces espaces fictionnels?
Je rebondis d'abord sur la réponse de Valentin Touzeau que je partage complètement, c'est-à-dire d'abord le coût d'opportunité est faible, et ça, c'est je réfère à un article d'une anthropologue qui s'appelle Polly Wissner qui a référencé les discussions qu'avait une société de chasseurs-cueilleurs en Afrique. Et il se trouvait, pour corroborer ce que dit Valentin, que la journée, seulement 6% des conversations de ces humains étaient dédiées aux histoires. Quand le soir, autour du feu, ces histoires prenaient 81% des discussions. Donc on a un contraste assez fou qu'on retrouve dans les sociétés modernes, qui est qu'on consomme des fictions le soir, quand le soleil se couche, et que les activités productives ou les discussions sur les affaires sociales, sur les affaires économiques, prennent beaucoup moins de place. Donc c'est un premier résultat qui semble assez stable. Ensuite, pour élargir un petit peu ce champ, parce qu'en fait, même si le coût d'opportunité est faible, on pourrait faire plein d'autres choses. Le fait est que le soir, on se tourne quand même vers des histoires fausses. Et comme dit Valentin, c'est pas trivial. C'est assez complexe de trouver une réponse universelle. Je pense qu'il y en a pas. Je pense que justement, ce qu'on essaie d'apporter avec Valentin Touzeau, entre autres, et tous nos collègues avec lesquels on collabore sur ce sujet, c'est d'essayer de comprendre les diverses raisons qui sont on a énormément de préférences cognitives, c'est-à-dire de choses qui nous intéressent quoi qu'il arrive et qu'on retrouve dans les histoires de fiction. On parlait d'horreur par exemple, les humains aiment bien se faire peur de temps en temps et on va retrouver ça de manière très très bien faite dans les histoires de fiction. Les humains aiment bien l'amour, aiment bien les mondes imaginaires, on va en parler sûrement. On retrouve dans les fictions des éléments qui nous font plaisir dans la vraie vie. Je pense que ça, c'est un élément de réponse important sur lequel nous, on se base pour poursuivre nos recherches.
Cette dimension de plaisir, elle est cruciale dans notre goût pour la fiction. Edgar Dubourg, ça nous fait plaisir de manger. Est-ce qu'on prend le même plaisir à consommer des fictions? Et est-ce qu'on peut là raccrocher les wagons avec cette notion de psychologie évolutive, de se dire que finalement, si le plaisir a été sélectionné dans l'évolution, le plaisir de manger a été sélectionné dans l'évolution, c'est que ça me permettait très bêtement la survie des individus. Est-ce qu'on peut transposer ça à la fiction et se dire que ce plaisir est un plaisir équivalent à celui de manger? Est-ce que il en va de notre survie d'aimer la fiction?
Alors la première partie de la question, je suis 100% d'accord. Le plaisir a évolué comme un compas pour nous orienter vers des comportements bénéfiques pour notre survie, notre production. Le système du plaisir récompense énormément de comportements bénéfiques et le sentiment de satiété, le sentiment très très agréable d'une bonne bûche de Noël en train d'être avalée, c'est vraiment quelque chose qui est très parlant pour tout le monde, j'imagine. Surtout à cette période de l'année. La fiction, la deuxième partie de votre question qui pose la question de l'extension de ce phénomène à la fiction est plus complexe parce que la fiction est probablement quelque chose qui a été inventé par les humains pour coopter, c'est-à-dire pour activer ces mécanismes sans qu'ils soient forcément bénéfiques directement comme pouvaient l'être les comportements adaptatifs dans le passé évolutif. Et pour preuve, c'est qu'on peut représenter des choses, des aliments fictifs, des plats fictifs, par exemple, à la télé, on peut voir des personnages en train de manger un grand buffet et ça va activer notre faim ou notre sentiment de plaisir face à de la bonne nourriture sans que ce soit quelque chose qui est directement consommable puisque c'est fictionnel. Donc en fait, on se rend compte, nous psychologues, en ce moment, que ces mécanismes peuvent être activés par des ce qu'on appelle des stimuli artificiels, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas vraiment présents dans notre environnement directement.
Edgar Dubourg, vous allez plus loin dans votre livre « Histoire naturelle de la fiction ». Vous dites que les fictions sont à percevoir comme une technologie. Alors, que nous permet de réaliser cet outil qu'est la fiction, selon vous ?
Je pense que la première question à se poser, c'est ce qu'on appelle la perspective du producteur, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bénéfique pour le producteur ? Qu'est-ce qui fait que la personne, en tout cas, qui crée les fictions, trouve du plaisir, a un intérêt à la produire. Et là, il y a toute une diversité de raisons liées, par exemple, tout simplement à la réputation, c'est-à-dire au fait de pouvoir, on sait que dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, les raconteurs d'histoires bénéficient d'une certaine réputation. Ils sont connus pour ça, c'est un peu leur métier, c'est un métier de subsistance, on pourrait dire. Et cette personne qui crée des histoires peut échanger des ressources grâce à ses capacités de storyteller, etc. On peut aussi parler du plaisir lié à la production de fiction, tout simplement pour se faire plaisir, pour consommer soi-même des fictions qui nous plaisent, donc c'est une autre possibilité. Donc il y a énormément de raisons qui nous mènent à essayer de produire des fictions. Du côté de la consommation, au-delà du plaisir qu'on en a directement, on postule qu'il y a des effets bénéfiques indirects, comme par exemple la possibilité d'en parler avec ses amis, avec ses proches. Donc il y aurait une sorte de possibilité de recyclage social de la consommation de fiction. Donc il y a plusieurs hypothèses qui peuvent être testées, qui sont en cours de test, qui sont pas encore ni falsifiées, ni complètement vérifiées, et qui nous permettent d'avancer sur cette question.
Valentin Touzeau, on parle de fiction, il faut qu'on parle de ces fictions en tant que telles, de leur structure, de leur organisation. Il y a une quantité colossale de fictions diverses et variées, et pourtant on semble percevoir qu'il y a des structures à peu près communes à l'ensemble de ces fictions. Pourriez-vous nous décrire, vous qui vous plongez dans la foule de données que vous manipulez tous les jours, pouvez-vous nous expliquer s'il y a des structures qui sont récurrentes et nous expliquer le sens de ces récurrences ?
Oui, alors c'est quelque chose qui remonte, qui a été constaté par des chercheurs très anciens. Aristote parlait déjà de structure narrative, et c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu probablement parler à l'école ou ailleurs. Cette particularité qu'ont les histoires de fiction, les narrations, d'être construites avec des blocs qui sont à peu près toujours les mêmes, à peu près organisés toujours dans le même sens, avec pour commencer une situation initiale, bien décrite, puis un événement perturbateur qui vient chambouler un peu cette situation pour le protagoniste, pour le personnage principal. S'ensuit un certain nombre de péripéties, c'est-à-dire que le protagoniste, le personnage principal, cherche à obtenir quelque chose, mais il est face à un certain nombre de difficultés, des conflits, des problèmes qu'il arrive à surmonter. S'ensuit un conflit final, en général, un climax. Et enfin, une résolution qui peut être positive, l'histoire se termine bien, ou négative, c'est une tragédie et on pleure dans les chaumières. Alors, ce qui semble être le cas et qui a été constaté par beaucoup de gens qui se sont intéressés aux fictions, alors pas d'une manière très systématique, évidemment, Aristote n'avait pas
il connaissait pas les big data, ouais.
Automatisée, évidemment. Et alors, c'est ça qui est assez excitant pour nous aujourd'hui, que d'avoir ces outils pour pouvoir tester des thèses, des théories qui sont vieilles de plusieurs millénaires en vérité. Donc on s'inscrit en fait dans cette tradition qui est extrêmement ancienne, et on a commencé à essayer de mettre en place des tests comme d'habitude on on a cette prédiction, il devrait y avoir des structures récurrentes. Comment est-ce qu'on peut le tester? Eh ben, il y a plein de manières de faire, notamment un article qui a été publié il y a quelques années à peine sur un corpus immense de narration, de fiction, mais aussi de TED Talk, qui sont structurés comme des narrations. L'idée, c'était de compter le nombre de mots, des mots qui sont plutôt reliés au lexique de la description, des mots qui sont plutôt reliés au lexique de la tension cognitive, de à quel point est-ce qu'il y a il y a de la causalité. Et ce qu'on voit, c'est que on a toujours une architecture structurée de la même manière quand on regarde des milliers et des milliers d'œuvres. On retrouve vraiment cette structure à l'échelle de d'histoires extrêmement différentes. Donc cette intuition d'Aristote qui avait vraiment cette structuration, intuition qui a été reprise par d'autres après, semble être vérifiée quand on regarde de très grandes quantités de données. Ok. Alors maintenant, ça, la deuxième question que vous posez, pourquoi est-ce que cette structure semble être récurrente? C'est une question ouverte aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on puisse avoir encore de réponse claire. Ce qu'on peut constater, c'est que ça semble être quelque chose qui vient produire de la satisfaction chez les consommateurs de fiction. Quand on regarde un film, quand on lit un roman, si on n'a pas cette structure bien architecturée, situation initiale, événement perturbateur, péripétie, climax, conclusion, souvent il nous manque quelque chose, on est insatisfait. Alors ça peut générer de la curiosité parfois, mais ça reste quelque chose qui est une bonne garantie de satisfaction. Alors pourquoi ? Dans le laboratoire dans lequel on travaille, avec Edgar Dubourg, on explore une possibilité, une explication possible. La thèse qu'on étudie en ce moment, mais voilà, c'est un travail en cours, c'est de se demander, mais est-ce que cette structure, ce serait pas la structure parfaite pour donner le sentiment à l'audience, aux consommateurs de ces fictions, qu'ils sont en train d'apprendre quelque chose d'important, c'est-à-dire de constater qu'un personnage est en train d'essayer de résoudre des problèmes, et que en observant ce personnage, du fait de cette structure qui a posé vraiment cette situation initiale et qui est venue secouer un peu la situation avec les bandes perturbateurs, l'audience est un peu comme un voyeur qui pourrait, aux dépens du personnage principal, apprendre plein de choses intéressantes et pertinentes. Et ce serait ça l'explication de cette structure. Alors, est-ce que c'est vrai? Revenons dans quelques années, le temps qu'on... Ouais. On avance sur ces questions.
Vous viendrez bien sûr nous donner les résultats de ces travaux. Edgar Dubourg, là, on parle de structure. Maintenant, on peut peut-être regarder ce qu'il y a dans cette architecture dont parlait à l'instant Valentin Touzeau. Les thématiques, il y a aussi des thématiques récurrentes. On parlait tout à l'heure de l'horreur, de la peur, des monstres, de l'amour, des voyages. Ces thématiques-là, depuis l'Odyssée, le premier texte écrit en Occident, voilà, c'est des thématiques qui reviennent systématiquement. Là, à nouveau, comment expliquer la récurrence de certains grands thèmes comme ça?
L'hypothèse qu'on fait, ça rejoint un petit peu l'hypothèse dont parlait Valentin Touzeau, hein, sous certains aspects, c'est que ces thèmes narratifs qui reviennent sans arrêt sont des thèmes qui sont intéressants pour les êtres humains dans la vraie vie, en dehors des narrations fictives. On peut prendre par exemple l'exemple du voyage. Les humains ont évolué à une forte propension à explorer leur environnement pour apprendre de nouvelles choses, échantillonner leur environnement, c'est-à-dire essayer de comprendre davantage les ressources qu'il peut y avoir dans tel ou tel environnement. Pour ça, il faut une curiosité exploratoire, c'est-à-dire la motivation intrinsèque d'aller explorer un environnement nouveau. La peur, le fait de vouloir se faire peur, qui est un paradoxe encore une fois vieux de l'Antiquité. Pourquoi les humains aiment bien se plonger dans des histoires qui font peur? Sûrement encore une fois parce qu'ils apprennent des choses sur les sources de menaces. Donc ce qu'on appelle la curiosité morbide, c'est-à-dire le fait d'être intéressé par des potentielles sources de menaces desquelles on peut apprendre par exemple des réactions possibles qui nous permettent de nous en sortir. Qui peuvent permettre de davantage réagir positivement à ces sources de menaces dans le futur. Là-dessus, pour faire le point avec ce que disait Valentin Touzeau à l'instant, il y a une étude qui montre par exemple que les sources de menaces, une étude assez récente de Olivier Morin et Oleg Sobchak, qui montre que les sources de menaces qu'on trouve dans les fictions, en tout cas tout type d'obstacles, sont en fait des obstacles qui sont très importants dans la vie des humains. Par exemple, pour les romans, c'est se marier. La décision de se marier est une décision très importante. échapper à un prédateur ou un agresseur, c'est un comportement très important. Explorer un environnement dans des bonnes conditions, c'est une décision et une suite de comportements très importants. Donc, ce sont des descriptions d'agissements humains. Le personnage fait des choses qui sont considérées comme importantes, mais en plus qui sont assez rares. C'est-à-dire, on n'a pas la possibilité de s'entraîner parfaitement à toutes ces situations. Échapper à un agresseur dans la vraie vie, c'est très dur de s'y entraîner. Se marier, on le fait qu'une fois, donc c'est très dur de s'y entraîner.
Oui, ça, donc c'est ce qu'on appelle plusieurs fois, ça, selon les cas, mais ça c'est
exactement. C'est en tout cas des événements rares. C'est ça le. Oui. C'est des événements qui sont pas quotidiens, et donc du coup, c'est très difficile de pouvoir apprendre par essai-erreur, en gros. Et donc les fictions permettraient de simuler des environnements. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la simulation, hein, qui complémentaire, ou en tout cas qui pourrait être complémentaire avec l'hypothèse que vient de décrire Valentin Touzeau et qui pourrait expliquer beaucoup de thèmes, l'importance de beaucoup de thèmes narratifs dans la fiction. C'est cette idée que les humains sont intéressés par des sortes de histoires qui sont comme des petites simulations d'événements qui pourraient être graves dans le sens de importants et qui sont difficiles à expérimenter.
Et d'événements qui, dans leur répétition, ont permis notre survie et notre reproduction en tant qu'espèce.
Exactement.
Restez avec nous parce que
ces mécanismes-là.
Oui.
Non. Je vous laisse, pardon.
Non, pardon. On va poursuivre cette émission, bien sûr, et on va raconter comment on travaille sur ces questions-là en laboratoire. Ce sera juste après ça.
Fiction, when we're not together, mistaken for a vision, something of my own creation. I wake up alone, with only daylight between us. Last night the world was beneath us, tonight comes too long. Were we torn apart by the break of day? You're more than I can believe. Whatever come my way.
Fiction par The XX dans la science CQFD sur France Culture. On poursuit notre recherche des origines de notre goût en tant qu'humain pour la fiction. Et nous suivons nos deux guides du jour dans cette exploration. Edgar Dubourg, docteur en sciences cognitives à l'École normale supérieure et chercheur postdoctoral à l'Institut Curie, auteur du livre Histoire naturelle de la fiction paru aux éditions Humaine Science. Et Valentin Touzeau, enseignant-chercheur de sciences des données appliquées à l'étude de la culture à l'Université Paris Sciences et Lettres. Et pour avancer dans notre sujet, on va aller voir comment la recherche sur ces thématiques se développe dans les laboratoires. On part en reportage. La capacité d'imagination propice à l'élaboration de récits et fictions repose sur une faculté cognitive humaine, la créativité. Pour en comprendre l'origine et les mécanismes, nous sommes allés au laboratoire du Front Lab de l'Institut du Cerveau sur le campus de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Avec vous, Céline Lozen. Bonjour Céline.
Bonjour Antoine. Oui, en effet, imagination et créativité sont reliées au niveau neuro-anatomique et cognitif. Alors celle-ci se définit comme la capacité à produire des idées nouvelles, originales et adaptées à un contexte ou besoin donné. Selon le psychologue britannique Wallace, elle s'opère en quatre étapes. Préparation, incubation, illumination et vérification. Ces mécanismes sont étudiés par l'équipe de la chercheuse et neurologue Emmanuelle Voll. Entre observations sous imagerie cérébrale et tests en psychologie expérimentale, elle explore ses facultés par des exercices mobilisant la pensée divergente, la résolution de problèmes ou bien la combinaison par association d'idées.
Il y a des liens effectivement entre créativité et imagination, et ce lien il pourrait passer par les systèmes de mémoire, en particulier de mémoire épisodique, qui selon certaines théories seraient utilisés pour simuler des événements dans le futur par exemple, à partir d'éléments de connaissances qu'on a déjà, ou d'éléments de souvenirs qu'on a déjà.
Du réel.
du réel.
On part du réel pour en faire un imaginaire.
Ouais. En tout cas, nous, dans l'équipe, on s'intéresse plus particulièrement à ce qui est mémoire sémantique, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances qu'un individu a sur le monde. Et sémantique, ça veut dire qu'il n'est pas forcément capable de dire à quel moment il a appris cette connaissance. C'est pas contextualisé dans le temps ou l'espace. C'est des connaissances qu'on a. Et ce qu'on a trouvé, c'est que le lien entre créativité, enfin entre cerveau, connectivité fonctionnelle du cerveau et créativité, pourrait passer par l'organisation de la mémoire. C'est-à-dire qu'il y a des profils de connectivité fonctionnelle cérébrale qui sont plus propices à une structure plus dense de notre mémoire sémantique et que ça facilite notre créativité.
Alors là, on rentre dans vos bureaux, c'est là où vous compulsez les images que vous pouvez acquérir.
Alors ici, c'est
de vos expériences.
C'est ça, c'est un grand open space dans lequel on travaille en fait à l'analyse des données qu'on acquiert, que ce soit des données d'imagerie ou des données de comportement, qui sont les principales sources de données qu'on a dans l'étude de la créativité. Donc vous voyez, tous nos chercheurs et nos étudiants sont répartis dans cet open space.
Parce que les imageries sont dans le plus bas niveau.
En fait, tout ce qui est acquisition de données comportementales ou d'imagerie, elles se font dans des plateformes dédiées au sein de l'ICM, où on a la chance d'avoir des plateformes très très avancées pour la neuroimagerie. Donc nous, on va chercher des tâches qui sollicitent les capacités créatives ou parfois des processus particuliers de la créativité. Concernant les tâches de créativité globales, les tâches les plus utilisées dans toute notre communauté, c'est surtout, premièrement, les tâches qu'on appelle de pensée divergente. Et donc, dans ces tâches, le principe, ça consiste à demander à nos participants de générer le plus d'idées différentes face à une situation donnée.
Alors là, on a une bouteille en verre. Voilà. Usage alternatif d'une bouteille en verre.
C'est ça. Donc on demande...
Il faut penser hors du cadre, en fait.
Il faut penser hors du cadre et il faut s'éloigner. Il faut essayer de se décrocher, de se défixer de l'usage, puisqu'on propose des objets communs, courants, qui ont une utilisation dédiée forte. Et pour pouvoir trouver des usages alternatifs, il faut se défixer de cet usage préétabli de l'objet pour imaginer des utilisations autres. Et donc, on peut utiliser, par exemple, une bouteille ou une boîte en carton.
Et là, par exemple, une bouteille, vous diriez quoi?
Alors, moi, je suis très biaisée parce que j'ai regardé les réponses de milliers de sujets. Une réponse qui me plaît beaucoup, c'est d'utiliser une bouteille comme un coquetier.
Oui, on peut transformer l'objet.
Ouais. Donc, si on prend le culot...
Un entonnoir, j'allais dire.
Voilà, ou un entonnoir. Donc, le coquetier me plaît beaucoup. Une deuxième catégorie de tâches qui sont pas mal utilisées dans notre communauté, ce sont des tâches de résolution de problèmes qu'on appelle des problèmes avec insight. C'est-à-dire que ce sont des problèmes dans lesquels il faut trouver une solution qui convient. Donc, c'est plutôt convergent par opposition aux tâches de pensée divergente. Et ces problèmes, ils ont la particularité, un, d'avoir dans leur énoncé des sortes de contraintes implicites qui nous oriente dans une mauvaise direction pour chercher la solution.
Ah oui, comme le fait de relier 9 points par 4 segments.
Exactement. Quand on fait le problème des 9 points...
Alors qu'ils sont disposés en carré, hein, c'est ça?
Ouais. J'ai une image. On a 9 points qui sont disposés dans un carré équilatéral. Et la tâche consiste à relier chacun de ces 9 points en traçant 4 segments de droite sans lever le stylo. Et la difficulté que les gens ont quand ils tentent de résoudre ce problème, c'est que, implicitement, ils pensent qu'ils doivent rester à l'intérieur du carré virtuel qui est délimité par ces 9 points. Et on ne peut pas résoudre le problème de cette façon. Pour pouvoir résoudre ce problème, il faut tracer des segments de droite qui sortent de ce carré virtuel. C'est pour ça qu'on dit penser en dehors de la boîte.
Penser hors du cadre, encore une fois.
Penser hors du cadre. Et là, du coup, quand on pense à sortir de ce carré virtuel, bah, c'est très facile de trouver comment faire.
Je crois qu'il y a un troisième cas de figure aussi, qui est l'association d'idées.
Oui, alors ce troisième cas de figure, il est à la fois divergent et convergent, si je puis dire. Par exemple, la tâche qu'on utilise souvent, c'est ce que j'appelle la tâche de combinaison associative, où on donne aux participants 3 mots qui apparemment n'ont pas de lien les uns avec les autres, comme, qu'est-ce que je vais vous donner, balle. Tempête et blanc.
Je dois trouver une phrase qui relie les...
Il faut trouver juste un mot.
Neige. Non, boule.
Oui, neige, très bien. Et donc, la difficulté, évidemment, c'est pas la solution qui est créative. Ce qui est créatif, c'est d'arriver à trouver une connexion entre trois mots qui, habituellement, sont pas justement trouvés ensemble. Et donc, cette tâche, elle fait appel à la fois à nos capacités de faire des associations d'idées, en particulier des associations lointaines, parce que la solution, elle est assez éloignée des mots qu'on donne au sujet. Et en même temps, il faut avoir de bonnes capacités à mener en parallèle une recherche qui se fait à partir des trois indices et à vérifier que les pistes ou les associés qu'on trouve à partir de chaque indice, quand on les combine entre eux, ça forme une solution qui marche pour les trois.
Merci beaucoup Céline Lozen. Ce reportage, comme tous les autres, est à retrouver dans la collection de podcasts La Science au Labo, sur l'appli Radio France bien sûr, mais aussi sur la page de La Science au Labo sur le site franceculture.fr. Valentin Touzeau, une réaction à ce propos et à ces recherches d'Emmanuel Vol?
Ah oui, c'était très intéressant, merci pour ça. Donc le cadre théorique d'étude de la créativité, ce qui m'a frappé dans le petit reportage, c'est la similitude qu'il peut y avoir entre la créativité dans la production de fiction et la créativité qui est nécessaire dans la démarche scientifique. Donc ce qui est montré ici, c'est que le fait de s'appuyer sur des connaissances préalables, donc on parle ici de mémoire sémantique, semblerait apparemment, ou en tout cas une certaine structuration de la mémoire sémantique, ce sur quoi on s'appuie, c'est vraiment ce sur quoi on va construire notre créativité. Et c'est ce qui semble être le cas dans des tâches comme par exemple celles qui sont évoquées ici dans le reportage, qui sont assez marrantes. Probablement que c'est la même chose dans la production de fiction, c'est-à-dire s'appuyer sur des choses qu'on a vécues, qu'on sait déjà par ailleurs dans notre expérience, dans notre vie, pour produire de nouvelles fictions. C'est le côté personnel dans la production de fiction. Et dans le cadre de notre travail en tant que psychologue, en particulier, on a, c'est peut-être les gens ne le savent pas, mais on utilise beaucoup nos propres intuitions psychologiques pour être créatif. C'est-à-dire qu'on va, nous, par exemple, quand on étudie des fictions d'horreur, s'appuyer sur l'effet que les fictions nous font à nous. Chercheurs, essayer de comprendre déjà nos propres ressentis pour générer, pour être créatif. Alors, c'est pas du tout des preuves. On va pas s'appuyer sur nos ressentis quand on est scientifique pour pouvoir prouver quoi que ce soit. Par contre, ça peut nous amener à générer, à être créatif, à générer de nouvelles théories, générer des propositions qui seront après à placer au tribunal de l'expérience, évidemment. Et donc, on retrouve des phénomènes assez similaires. Donc, c'est assez curieux d'en apprendre plus sur ces travaux d'imagerie.
Edgar Dubourg, dans ce que dit Valentin Touzeau, il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est de parler de cette familiarité dans la créativité, de finalement, quand on crée de la fiction, de créer des univers à peu près connus, communs. Il y a aussi un autre type de fiction, c'est cette fiction qui s'inscrit dans des mondes imaginaires. Des succès de séries comme Game of Thrones sont là pour le rappeler et pour le prouver. Qu'est-ce qui va distinguer fondamentalement ces deux types de fiction, entre une fiction d'une réalité proche et une fiction d'un monde imaginaire? Et comment on peut expliquer le succès fou qu'ont ces mondes imaginaires?
On peut l'expliquer, enfin en tout cas j'essaye de l'expliquer, par l'existence, encore une fois, dans les esprits humains, de façon à peu près universelle, mais encore une fois variable, d'un mécanisme cognitif de curiosité exploratoire, dont j'ai un tout petit peu parlé, qui pousse les humains, mais aussi certains animaux non humains chez d'autres espèces, à explorer leur environnement pour découvrir des nouvelles ressources ou des nouvelles informations. Donc on a dans notre esprit ce mécanisme de curiosité qui nous pousse à explorer des mondes nouveaux. Et il se trouve que dans certaines fictions, on peut mettre en place, construire un monde qui est nécessairement nouveau puisqu'il sort de l'imagination d'un créateur ou d'une créatrice de fiction et qui est développé de telle sorte à activer particulièrement intensément ce mécanisme de la curiosité, en présentant notamment des nouvelles informations sur des végétaux qui n'existent pas dans la vraie vie, ou des structures politiques, des structures sociales qui n'existent pas dans le monde réel, comme le fait par exemple Tolkien, ou la possibilité d'introduire des éléments complètement fantastiques comme la magie, qui vont évidemment nous frapper cognitivement, perceptuellement même. Dans Avatar, qui le troisième film vient de sortir, Ce qui était fantastique dès le premier film, c'était la nouveauté perceptuelle des environnements bleus, fluorescents, violets, qui étaient en plus très bien faits grâce à l'évolution technologique. Donc, encore une fois, ce qui va nous attirer, c'est la nouveauté et la promesse d'apprentissage. On va s'orienter vers ces mondes imaginaires nous-mêmes, consommateurs, consommatrices de fiction, curieux d'environnements nouveaux dans la vraie vie. En tout cas, c'est l'hypothèse qu'on a testée et qu'on a vérifiée dans certains des projets qu'on a réalisés en collaboration avec Valentin Touzeau notamment.
On approche tout doucement de la fin de cette discussion. On va pas pouvoir parler de l'importance d'avoir des goûts partagés en matière de fiction et de l'aspect sociologique aussi et anthropologique de ces recherches. Je prenais l'exemple tout à l'heure de Game of Thrones, que vous présentez comme une fiction mondiale dans votre livre, Edgar Dubourg. Est-ce qu'on se rapproche avec Game of Thrones de ces histoires qui sont appréciées par tout le monde? Vous posez une de ces questions. Moi, je pense que c'est des questions qui sont passionnantes parce qu'elles sont irrésolues et qu'elles seront sans doute jamais résolues. Mais est-ce que, selon vous, il serait possible d'inventer une histoire appréciée par tous les membres de notre espèce, sans exception?
Je pense qu'une des conclusions des travaux de recherche qu'on a pu mener dans notre équipe, c'est qu'il n'existera jamais une histoire appréciée par l'ensemble des humains. Quand on parle d'une histoire qui est potentiellement universelle, c'est-à-dire, quand on parle d'une histoire mondiale, par exemple ici, c'est une histoire qui peut intéresser des gens à travers le monde, indépendamment des sociétés et des cultures. Mais ça ne veut pas dire qu'au sein des sociétés, tous les individus auront une préférence marquée, un plaisir important en consommant cette fiction. Et la raison principale et fascinante et sur laquelle on travaille activement, c'est en fait la variabilité psychologique des préférences humaines. C'est-à-dire que chaque humain a des traits de personnalité, des traits de caractère dus à ses prédispositions biologiques, ses expériences, son développement cognitif, son environnement. Chaque humain aura des préférences très différentes, très distinctes des autres, sur énormément de domaines et à travers tous les thèmes narratifs aussi, par conséquence. Et donc du coup, ce qui nous intéresse, nous, maintenant et même depuis quelques années, c'est de comprendre justement pourquoi il ne peut pas y avoir une seule fiction qui plaît à tous les humains, et qu'est-ce qui fait que les humains varient sur autant de dimensions.
Et ça, en tout cas, c'est vraiment passionnant et vous en rendez parfaitement compte de cet aspect vraiment enrichissant de ces recherches dans votre livre Histoire naturelle de la fiction, Edgar Dubourg. Merci beaucoup à vous, Edgar Dubourg. Merci également à vous, Valentin Touzeau. À présent, il est l'heure de retrouver Alexandra Delbault pour sa chronique Avec Science, une chronique consacrée toute cette semaine à la santé des femmes. Aujourd'hui, il est question du concept d'hystérie.
Comment la médecine répare ses biais avec aujourd'hui comment sortir de l'héritage de l'hystérie? En psychiatrie, il existe encore des maladies perçues comme plutôt masculines et d'autres comme plutôt féminines. Chez les hommes, on parle davantage de burn-out ou d'épuisement professionnel. Chez les femmes, plus souvent de dépression et d'anxiété. Mais il y a une maladie qui colle tout particulièrement encore à la peau des femmes, c'est l'hystérie. Béatrice Garcin est neurologue à l'hôpital Avicenne de l'APHP et professeur à l'université Sorbonne Paris-Nord.
Hippocrate avait proposé ce terme d'hystérie initialement basé sur des théories, des fluides qui sont évidemment plus du tout d'actualité. Et il est resté en fait très longtemps avec tous les problèmes que ça pose, hein, parce qu'évidemment il n'y a aucun lien entre ces symptômes et l'utérus. Et ces croyances d'un lien potentiel entre les symptômes et l'utérus sont restées elles aussi très longtemps. En tant que hystérie maladie, c'est un terme qui a été désigné pour parler de patients qui ont des symptômes neurologiques essentiellement, qui surviennent alors qu'il n'y a pas de lésion. C'est un terme qui a été utilisé par les psychiatres, par les neurologues, mais qui a ensuite disparu des classifications psychiatriques dans les années 80. Mais c'est aussi un terme qui est en tout cas assimilé aux troubles de la personnalité de type histrionique, c'est-à-dire des personnes qui sont excessivement démonstratives, qui cherchent de l'attention. Et là, c'est un terme qui est un peu plus péjoratif et stigmatisant.
Officiellement, l'hystérie ne figure plus dans le grand livre des classifications des maladies psychiatriques. Mais dans les faits, le mot continue d'être utilisé. C'est ce que montre le récent ouvrage de Pauline Chanu, « Sortir de la maison hantée, comment l'hystérie continue d'enfermer les femmes », paru aux éditions La Découverte. Elle y rapporte par exemple cette description des traits hystériques, sans anomalie psychique, une expression théâtrale, avec une forte demande de reconnaissance narcissique et phallique. Ces mots figurent dans un examen psychologique ordonné par une juge aux affaires familiales dans une affaire de violence en 2017. Donc, l'hystérie n'a pas disparu, du moins dans sa version la plus misogyne et la plus péjorative, qui n'a plus grand-chose à voir avec une maladie. Mais une question demeure. Que faire de tous ces symptômes longtemps rangés sous l'étiquette d'hystérie? Des crises qui ressemblent à de l'épilepsie mais qui n'en sont pas, des tremblements, une faiblesse musculaire, parfois une perte de la marche, des troubles sensoriels, de la vision ou de l'audition. Les gestes automatiques ne posent aucun problème, mais deviennent impossibles dès lors qu'ils sont exécutés volontairement, et tout cela sans lésion neurologique identifiable. Eh bien, tous ces symptômes correspondent bel et bien à une pathologie redécouverte depuis une vingtaine d'années. 70% des personnes touchées sont des femmes, ce sont les troubles neurofonctionnels.
Qui était appelé hystérie, par exemple, dans l'iconographie de la Salpêtrière par Charcot, avec les troubles du mouvement hystérique, etc. C'est la même chose que ce que nous, aujourd'hui, on appelle les troubles neurologiques fonctionnels. Et en fait, le changement de nom reflète aussi le changement de compréhension de cette maladie et aussi le changement des mentalités, en fait, vis-à-vis des personnes qui souffrent de cette maladie, avec une diminution quand même de la stigmatisation qui persiste quand même beaucoup aujourd'hui. Et surtout quand on essaye de comprendre pourquoi ça touche plus les femmes, il y a un ensemble de facteurs de risque. C'est pas une maladie avec une seule cause, et probablement qu'aujourd'hui on n'a pas compris tous les mécanismes. Dans les facteurs prédisposants, celui qui a été vraiment, mais de loin, le plus identifié, ce sont les traumatismes, et surtout les traumatismes dans l'enfance. Et il est vrai que les petites filles sont statistiquement plus victimes de traumatismes, notamment de traumatismes sexuels, mais aussi d'autres types de traumatismes et de maltraitance dans l'enfance que les petits garçons.
Ce n'est pas le seul facteur de risque. La tendance au perfectionnisme et l'abnégation, donc le fait de faire passer les besoins des autres avant les siens, est associé à cette maladie, des traits qui sont socialement valorisés chez les femmes. Ces TNF ne sont ni rares ni marginaux. Ils constituent aujourd'hui le deuxième motif de consultation en neurologie, après les maux de tête en France, donc ils concerneraient près de 70 000 personnes. Le premier enjeu aujourd'hui, c'est la formation des soignants. Les troubles neurologiques fonctionnels ne sont entrés que l'année dernière dans les programmes de médecine. Mieux les reconnaître, c'est poser un diagnostic plus tôt et éviter les errances médicales encore fréquentes. Le deuxième enjeu, c'est de changer le regard porté sur cette maladie. Ces troubles ont longtemps été disqualifiés et renvoyés à une supposée fragilité féminine. Les nommer justement, c'est reconnaître qu'ils sont réels et qu'ils se soignent. Et c'est aussi comme cela que la médecine répare ses biais.
Merci beaucoup Alexandra Delbo, la totalité de cette série spéciale de chroniques avec science consacrée à la santé des femmes et bien sûr à retrouver sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France. Et on vous retrouve bientôt pour votre prochaine chronique. Un grand merci à toute l'équipe de la science CQFD, Tom Mundenstock, Alexandre Morales, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Ali Ruyer-Thompson, Noémie Eliazor, Joseph Schlegel, à la réalisation Hélène Trigueros, à la technique aujourd'hui Marie-Claire Oumabadi. On se retrouve bientôt dans la science CQFD et en attendant, gardez le bon cap, il y a toujours une terre de science en vue.